là, vraiment, j'allais dire un truc, c'est que j'étais sûr que c'était des bulots.
Ah, on part de loin, alors. C'est du topinambour.
C'est du topinambour. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu de topinambour de près.
C'est ce qu'on appelle les légumes oubliés.
Ah, ben voilà.
Et certains disent qu'on a bien fait de les oublier.
Eh ben voilà. Eh ben pourquoi on a bien fait de les oublier? Pourquoi?
Bah parce que non, ça rappelle de mauvais souvenirs à nos anciens pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah, bah oui, bien sûr.
Un légume de substitution.
De substitution.
Mais c'est un petit goût d'artichaut. Vous aimez l'artichaut?
Je déteste l'artichaut.
Ah, eh ben ça part bien cette émission.
Europe 1, 11h30. La table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche les amis. Allez, installez-vous. Aujourd'hui, nous recevons un humoriste, nous recevons un comédien, nous recevons un jazzman. Aujourd'hui, nous recevons Michel Leeb.
Oui.
Bonjour Michel.
Mais vous faites bien de le recevoir.
Mais on est ravis de le recevoir. Il se tient bien à table, paraît-il, Michel Leeb.
J'arrête de baver. Je ne bave plus.
Alors, vous êtes sur scène en ce moment, il ne faut pas baver, justement, pour Inavouable à la Comédie des Champs-Élysées.
Oui,
oui. Le dimanche à 15h, je crois.
C'est à 15h dimanche. Alors, dépêchez-vous, parce que c'est pour venir maintenant.
Ça compte pour vous, le déjeuner du dimanche midi?
Je ne mange pas trop, parce que comme je joue à 15h, je pars de chez moi à 14h. Donc, oui, il ne faut pas que je sois trop lourd. D'ailleurs, je mange rarement avant de jouer, donc c'est compliqué.
Eh bien, on va manger léger, ça devrait vous plaire. Aujourd'hui, on va prendre le temps de préparer ce déjeuner du dimanche avec une chef très inspirée. On va recevoir aussi un invité, hein, c'est ça le principe du dimanche, c'est qu'il y a des gens qui passent. Ce sera Alain Baraton, vous savez.
Ah oui, bien sûr, oui.
Le jardinier en chef du parc du château de Versailles.
Ah, c'est magnifique.
Il sort un très beau livre sur les arbres. D'accord. Et puis, je vous présente Alessandra Montagne, notre chef. Bonjour Alessandra.
Bonjour.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Michel Leeb, Alessandra Montagne, la chef du restaurant Nosso à Paris, dans le 13e arrondissement. Elle a sorti le chalumeau. Qu'est-ce que vous flambez, Alessandra?
Attention, alors je flambe le cabillaud que nous allons déjeuner tout à l'heure.
Ah, c'est bien.
Avec des petites aubergines et le topinambour blanc qui vient de la ferme de Saint-Denis, en région parisienne.
Ah oui,
voilà.
Belle ferme, effectivement, bio. À côté de Paris, donc c'est pas du bulot, vous confirmez bien, Michel?
Non, c'est pas du bulot.
De loin,
non.
Comme ça, je voyais dans l'assiette, je me disais, qu'est-ce que c'est que c'est? On dirait des fruits de mer, mais
c'est bien du topinambour blanc.
Vous êtes née à Rio de Janeiro, Alessandra, et
oui.
Vous êtes arrivée à Paris à 21 ans, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. C'est
et ça. Là, elle en a 22.
Et là, j'ai 22. Voilà, ça fait 20 ans que je suis là, j'ai 22.
Mais vous n'êtes pas venue en France pour cuisiner au départ, hein?
Non, je ne suis pas du tout venue en France pour cuisiner au départ. Je suis venue pour apprendre le français à la Sorbonne. Et je suis tombée amoureuse de Paris et de la France. Je pense que c'est facile à comprendre, ça.
Magnifique,
tout le monde tombe amoureux de Paris. Et voilà, je suis là encore aujourd'hui. Je pense qu'il pourra encore un bon moment.
Eh bien, on est ravis de vous avoir avec nous jusqu'à midi et demi. On sait que vous allez nous régaler. Alors, votre cuisine n'est pas typiquement que brésilienne. Elle est inspirée un petit peu de la cuisine brésilienne.
Oui, ma cuisine,
mais pas que...
elle n'est pas que brésilienne. Surtout pas, c'est une cuisine... d'abord française, parce que je cuisine quasiment que de produits français de région parisienne. J'ai fait aussi des petits trucs du Brésil que vous allez goûter tout à l'heure. J'ai le plaisir de vous faire goûter ça. Mais c'est surtout une cuisine française, hein, avec des inspirations. Voilà.
Ah, il y a des surprises. Elle aime bien les surprises, Alessandra.
Oui, j'aime bien une petite surprise.
Oui, son restaurant s'appelle Nosso, dans le 13e arrondissement, juste à côté de la très grande bibliothèque. Vous cuisinez, Michel?
Pas du tout. Mais vraiment pas du tout, à part l'œuf coq ou l'œuf sur le plat, ou éventuellement une petite brouillade.
Ah, quand même, oui.
Ah, ben, c'est tout, mais c'est tout. Sinon, je suis... Alors là, le plat que j'ai réussi, mais un coup de peau, je ne sais pas comment j'ai fait, c'est le gratin de macaroni.
Ah ben c'est bien.
C'est pas évident à faire.
Ça c'est familial. Vous qui avez des enfants et des petits-enfants, ça réconcilie tout le monde, ça.
Exactement. Mais alors ça, c'était un challenge que j'avais fait avec ma femme, Béatrice. Je lui ai dit, bon, voilà. Ce soir, je m'enferme dans la cuisine, tout après-midi, je te fais un gratin de macaroni. Tout le monde a ri aux larmes en disant, c'est quoi cette histoire? J'ai dit, non, c'est sérieux. Alors, j'ai pris des bouquins, en particulier les bouquins de Zana Murat, parce que là, c'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Et vas-y, très sérieusement, page après page, j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit.
Elle a de belles recettes de couscous aussi, hein,
excellent.
Zana Murat.
Exactement.
À quoi ressemble un dimanche chez vous, Michel Leeb? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi le programme?
Bah écoutez, moi, je travaille l'après-midi, donc je ne me lève pas trop tôt parce que effectivement j'ai travaillé deux fois la veille. Le samedi, on travaille deux fois au théâtre. Et donc, je me lève vers 9h30, 10h. Je pars faire tout un footing pendant une heure.
Ah oui?
Ouais, tous les jours. Tous les jours.
Tous les jours, vous courez?
Tous les jours, je cours. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je cours parce que c'est excellent pour la santé. Je ne cours pas, en fait, je marche vite, c'est très différent.
Oui, mais c'est ce qu'il y a de mieux, paraît-il, voilà, hein, parce que la course,
à
les
nos
genoux,
grands âges, c'est très mauvais pour les articulations.
Qu'il dites-vous.
Oui, oui. Alors, je marche très rapidement. D'ailleurs, je ne cours plus. Je ne cours plus. De toute façon, si je cours, je me casse la gueule, donc je ne cours plus.
Mais ça fait vraiment un bien fou que de marcher dans la campagne quand on peut, quand je suis à la campagne, c'est formidable. Et voilà. Et ensuite, ben, je me prépare doucement. Je mange légèrement le midi. Je me prépare pour aller jouer à 15h l'après-midi.
Inavouable, à la Comédie des Champs-Élysées actuellement jusqu'au 31 décembre. Une belle pièce dans laquelle on rigole. On va en reparler tout à l'heure dans un instant.
Bien, oui.
Et oui, bien sûr, ben, on a besoin de rigoler en ce moment.
Énormément.
Ça ressemblait à quoi vos dimanches quand vous étiez enfant ?
Écoutez, c'était assez calme. Moi, vous savez, c'est particulier. Moi, j'étais en Normandie. J'habitais près de Rouen. En milieu des pommiers et des moutons. Enfin, il y avait une ambiance très, 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 très bucolique comme ça. Donc, j'ai passé des journées entières avec des potes à courir dans la campagne, à jouer à toutes sortes de jeux.
Et vous avez été en pension tôt aussi.
Ah,
hein.
Oui, j'étais en pension très tôt, oui. Alors ça, évidemment, comme j'étais collé pratiquement tous les week-ends, je passais mes week-ends le dimanche en pension collé. Je ne pouvais pas sortir.
C'est terrible, alors que c'est normalement le jour où on peut retrouver les copains et la famille.
Ah, c'était horrible. Alors, j'ai fait quand même 7 ans de pension, ce qui est quand même énorme à mon âge, à 10 ans. De 10 ans à 16 ans et demi, j'étais en pension quand même. Alors ça, c'était pas terrible, terrible. Alors, les sorties le dimanche ou le jeudi après-midi, comme c'était le cas à l'époque, ça se passait dans la campagne, dans les forêts alentour. C'est-à-dire, c'était dans les campagnes d'Evreux. C'était assez beau, mais bon, en même temps, moi, j'ai pas de souvenir particulièrement excitant de l'ambiance, mais c'était... Pour moi, c'était moche parce que j'étais loin de mes parents, j'étais collé et donc voilà, je ne sortais pas. Voilà,
ça, c'était vos parents qui ont divorcé quand vous étiez jeune.
Oui, alors
jeune,
si vous voulez raconter toute ma vie, c'est le moment parce que là, il y en a pour 3 heures au moins. Mes parents avaient divorcé, c'est pour ça que j'étais en pension.
C'est ça, oui.
Parce qu'ils se sont dit, bon, celui-là, on ne va pas le laisser au milieu. Ma sœur, c'est pareil. Ma petite sœur Réjeanne, que j'embrasse. Au passage, Coco. Hey, bien
Ring parade,
ça ne nous rajeunit pas. Et voilà, donc, pour éviter qu'on soit au milieu du chaos familial, on nous a mis en pension. Moi, j'étais chez les Gèzes à Évreux, et ma sœur était en face dans une école aussi, une catholique, etc. Voilà. Donc voilà, c'était pas terrible, terrible.
Et vous, Alessandra, quand vous étiez enfant, vous viviez au Brésil. Vous avez été élevée par vos grands-parents.
Non, pas du tout.
Pas du tout, Copacabana.
Non, en fait, j'ai grandi à Minas Gerais, dans un tout petit village à Minas Gerais. Je suis née à Rio, certes, mais je n'y ai jamais vécu. Je n'ai pas eu cette chance. Et donc,
le dimanche, c'était un jour particulier
pour
vous,
avec vos grands-parents ? Le dimanche, c'était d'abord l'église, le matin. Et puis après, évidemment, il y avait le plat du dimanche. Donc, on faisait beaucoup à manger parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui passait. Et c'était la fête toute la journée, quoi. On mangeait bien. Après, il y avait des sucreries toute l'après-midi.
C'était quoi le plat du dimanche ?
Poulet. Ma grand-mère adorait faire du... Alors, certaines occasions de l'année, on faisait le cochon de lait. Voilà, ça
c'est universel, le poulet du dimanche,
ouais,
dans tous les pays.
Ah oui. Moi, je mangeais pas de poulet, nous. Je mangeais des lentilles au collège.
C'est sympa. On va vous faire manger autre chose aujourd'hui. On va revenir au temps présent avec vous, Michel Leb, et puis votre actualité au théâtre avec cette pièce inavouable. On fait une petite pause et on vient avec Alessandra à table et nous aurons de la visite.
Europe 1, 11h30. La table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà à la table du dimanche autour de Michel Leb avec la cuisine généreuse d'Alessandra Montagne. Deux passionnés par leur discipline, on l'a entendu juste avant la pause. Alessandra vit et vibre pour la cuisine et puis Michel bien pour la comédie depuis très longtemps. Tiens, comment elle vous est venue, Michel Leb, votre vocation ? Vous avez tout de suite su que vous aviez envie d'être sur scène ?
Bah, ça a commencé quand j'étais justement en classe, dans les petites classes, les compositions de récitation. J'étais toujours choisi pour aller faire un texte. Tu sais, il fallait chercher dans un petit chapeau des petits papiers dans lesquels
il fallait piocher.
Et puis je tombais souvent sur des fables de La Fontaine et j'ai commencé par faire le corbeau et le renard. Et je faisais tout le show, je faisais le corbeau, je faisais le renard, je faisais la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, je faisais le pétard qui explosait à la fin, je faisais tous les personnages de La Fontaine.
Oui, les bruitages et puis...
Les bruitages.
Votre style est aussi très visuel, donc oui, vous avez peut-être pu déjà le développer à cette époque-là, j'imagine.
Exactement. J'ai commencé comme ça, je me suis rendu compte que je faisais rire mes petits camarades. Et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Ça a commencé comme ça, vraiment. Et après, bon,
Et après la gloire, quand même. J'ai vu quand même deux actes de gloire en préparant cette émission. J'ai en face de moi Mister Cannes et Mister Côte d'Azur.
Ça va, oui. C'est vrai, ça c'est exact. Alors un jour, je suis sur une plage à Cannes. Et je suis bien avec des copains, etc. Et là, il y a un mec qui arrive avec un haut-parleur. Ce soir, mesdames, messieurs, grand concours de Mister Cannes à telle boîte. Je me suis oublié le nom de la boîte, etc. Alors, présentez-vous à 19h pour faire les essais. Alors, mes potes me disent, vas-y. Alors, j'avais 20 ans. Hein. Vas-y, allez, on va se marrer, etc. Bon, je dis, bon, OK, je me prépare, tout ça. Et à 19h, je vais dans cette boîte, je fais les essais, je suis pris. Et je fais le soir même le concours de Monsieur Cannes, Monsieur Mister Cannes. Il fallait défiler en maillot de bain, etc., ou en costume, enfin voilà, chaque fois. Et je suis sélectionné pour la super finale qui a eu lieu dans une boîte qui s'appelle La Tomate, à Toulon. Et voilà. Et donc, il y avait tous les Mister, machin. Il y avait Mister Cannes, Mister Nice, Mister Menton, tous les mecs de la Côte d'Azur et de toutes les villes de la Côte. Et j'ai gagné.
Bravo.
J'ai gagné. Et donc, là, tu as en face de toi.
Mais je suis impressionné, c'est pour ça.
Mister Côte d'Azur, c'est moi.
Mes respects, Mister Côte d'Azur.
Je vous en prie.
Alors, aujourd'hui, on vous retrouve, Michel, à l'affiche d'une pièce comique, ça fait du bien, qui s'appelle Inavouable. C'est sur les planches de la comédie des Champs-Élysées, avenue Montaigne, dans un très beau quartier. Oui. Alors, on va parler un petit peu de la pièce. Le point de départ d'Inavouable, c'est un couple de retraités, un fils qui est en couple, qui vient les voir, qui leur laisse leur enfant. Et au moment où il leur laisse leur enfant pour le garder le week-end, alors là, il y a un petit problème, c'est que le couple de leur fils est en train d'exploser devant leurs yeux. Quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où on croit que tout va bien, c'est pas vrai, tout est complètement faussé, il y a vraiment un gros problème entre eux. Elle le quitte au moment où elle nous dépose l'enfant. Elle quitte son mec pour partir à Capri avec un autre type, comme ça, voilà. Et évidemment, ce drame se passe sous nos yeux. Et ça déclenche entre ma femme et moi, interprétée par Florence Pernel, qui, je vous assure, était vraiment magnifique. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses se dégradent entre ma femme et moi. À partir de là, j'apprends des choses épouvantables. Et ensuite, elle apprend des choses épouvantables venant de ma part. C'est une comédie, on rit d'un bout à l'autre. Et ce mec, qui s'appelle Gaspard, que j'interprète...
Alors, installé, bourgeois,
oui,
confortable.
Oui, voilà, hein. Et puis, oui. Un peu sûr de lui, tout ça. Il en prend plein la gueule. Et c'est ça qui est drôle dans la pièce, c'est qu'il n'y a plus d'assurance. Tout d'un coup, ça, il perd les pédales et voilà, c'est très drôle.
Pièce d'Éric Assous.
Hein. Pièce d'Éric Assous qui a fait de nombreux succès.
Oui, qui nous a quittés l'année dernière.
Absolument.
Et qui est un grand auteur de pièces de théâtre.
Grand auteur de théâtre. Donc, c'est la première pièce que j'ai jouée de lui. C'est une pièce qu'il avait écrite pour moi. Et juste avant de disparaître.
C'est une pièce sur le couple, sur les non-dits, sur le mensonge.
C'est ça.
Hein. Qu'est-ce
c'est
qui
ça.
Vous plaît dans tout ça? C'est justement les subtilités, les trahisons, les faux-semblants, les non-dits.
C'est pour un homme, c'est la mauvaise foi. Oui. C'est vraiment des pièces écrites comme des... C'est une petite orfèvrerie. C'est magnifique.
C'est des bijoux, c'est comme Feydeau. Voilà, il y a du rebondissement.
Oui, complètement.
On s'ennuie pas du tout.
Mais pas une seconde.
Inavouable, à la comédie des Champs-Élysées.
C'est ça.
Alessandra Montagne du restaurant Nosso à Paris est en train de nous régaler. Alors, qu'est-ce que vous nous faites pour le grignotage, pour l'apéro qui est en train d'arriver, Alessandra?
Alors, là, pour le grignotage, je vais vous servir le pain du queijo. C'est le petit pain au fromage brésilien. Qui en mange comme ça tout le temps, justement, pour grignoter. Et la petite surprise aujourd'hui, c'est que j'ai fait le traditionnel, mais je l'ai fait aussi avec de la truffe.
Oh.
C'est la première fois, donc j'espère que ça va être
bon. Vous avez
trouvé
de la truffe déjà, là?
Oh
là
oui,
là.
J'ai trouvé un tout petit peu, donc c'est hyper bon, enfin, vous allez voir.
Ah ben, on va goûter, alors.
Et avec un confit de tomates, avec des tomates de cet été que j'ai fait confire. Donc voilà, vous avez l'eau traditionnelle et les deux variantes.
Redites le nom. Alors, je vais le dire à nos auditeurs, on dirait des petites boules, des petits rochers.
Des
petites gougères, exactement.
Et en fait, c'est des pains du queijo.
C'est des pains au fromage, en fait.
C'est des pains au fromage.
Et c'est quel genre de farine, alors, que vous
utilisez? Alors, c'est de la farine de tapioca, donc ça vient de manioc. La truffe, c'est celui-là, regarde.
Ils sont chauds un peu là, ils sont
très
chauds.
Ah ouais. Ouais.
Ouais, on va attendre qu'ils
refroidissent
un petit peu.
Ça va, il faut manger un peu chaud.
Mais bon, faut...
bah oui, il faut manger chaud, oui, bien chaud. Bon,
donc, j'y vais, je me lance, Michel.
Oui, vas-y, je suis là.
Je me brûle d'abord au cas où.
C'est chaud là.
Chaud.
Ah oui, c'est vrai, c'est comme la gougère, effectivement, on a cette consistance à l'intérieur. C'est bon, elle est en train d'en distribuer à toute l'équipe, Alessandra Montagne. Oh, c'est bon ça.
Il faut de l'imagination à la radio, pour nos auditeurs.
Oui, mais ils pourront voir les photos sur europe1.fr.
Ah voilà, d'accord,
et des petites vidéo. aussi. Tiens, qui voilà par l'odeur alléchée ? Eh bien, notre camarade Emmanuel Rubin, critique gastronomique au Figaro, qui aime mettre les pieds dans le plat, mais pas que, et qui aime aussi partager avec nous le goût de l'époque. Bonjour Emmanuel Rubin.
Bonjour, 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 enchanté.
Michel Leb, bonjour. Emmanuel Rubin.
Bonjour.
Et aujourd'hui, petite leçon de menu.
De quoi qu'on cause alors aujourd'hui ?
On va parler des menus, vous savez, ce papier que l'on vous tend oui. au restaurant. Et il y a une toccade de chefs et de restaurants aujourd'hui qui commencent à finir de m'agacer. Ah. C'est le menu unique, menu surprise, qui n'a d'unique et de surprise que de virer vraiment pénible.
Oh bah, il est remonté. Alors ça y est, c'est un peu refroidi, Michel Leb. Qu'est-ce
excellent.
Que vous... C'est bon ça. Hein
oh là là.
Eh bien, ne bougez pas, chers auditeurs, vous êtes sur Europe 1, bonne cuisine. Hein. Si vous êtes en train de la faire, on va parler surprise avec Emmanuel Rubin. Donc ce menu surprise, juste après la pause.
Qu'est-ce que c'est bon ça.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi pour la table du dimanche avec Michel Leb à l'affiche de la pièce inavouable actuellement à la Comédie des Champs-Élysées. Et si vous avez envie de rigoler, allez-y. Et ça va durer, ça dure jusqu'à la fin de l'année.
31 décembre.
Avec Florence Pernel. Oui. Et nous sommes en cuisine avec Alessandra Montagne qui nous régale avec cette petite mise en bouche du restaurant Nosso dans le 13e arrondissement. Mmh. Hein, ça va, vous n'êtes pas choqué si je dis que ce sont des gougères un peu brésiliennes ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Le tout, c'est de pouvoir se situer et puis ensuite de goûter. Quoi. C'est tellement bon.
Il y a une nouvelle génération de chefs qui débarquent actuellement partout en France. Alessandra, comment vous définissez votre cuisine dans toute cette galaxie gastronomique ?
C'est un peu compliqué de se définir sa cuisine. Moi, je fais une cuisine de l'instant, une cuisine qu'on aime manger, une cuisine gourmande, une cuisine de saison, avec des produits simples. Que j'ai fait un upgrade, là, comme c'est le cas avec la truffe.
C'est ça, voilà. C'est bien la truffe. Hein.
C'est super bon. Super bon.
Mais,
des petites influences brésiliennes, mais voilà.
Des petites influences brésiliennes, mais ça reste quand même très léger. J'aimais très peu.
Donc
mais
vous avez
bon,
vraiment adopté l'art de vivre à la française avec les produits et vous les cuisinez de votre façon.
Voilà, j'ai un petit restaurant du 13e. Enfin, c'est...
Bon. Une belle table, Nosso, à côté de la bibliothèque. Vous, Michel Leb, comment vous définissez votre style ?
Moi, j'aime bien, je suis très éclectique, je ne veux pas m'enfermer dans un style.
On vous a souvent renvoyé au sketch de vos débuts, hein, l'africain, le chinois. Vous jouiez notamment sur le ressort de la caricature, des accents. C'est impossible, ça, aujourd'hui.
Ah oui, c'est fini.
Quel regard vous portez, justement, sur ces sketchs de l'époque
C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était complètement différent. On était invités dans les émissions de télévision pour faire ça. Les choses ont complètement changé.
On peut même dire, aujourd'hui, j'ai lu en préparant l'émission un article du Monde qui dit, oui, Michel Leb, raciste, le sketch de l'africain. Les gens qui ont... Enfin, ça allait loin, quand même. Ça vous a blessé? Ça vous a fait changer des choses dans votre façon d'écrire, de faire vos sketchs ?
Si j'ai blessé des gens en faisant ça, j'en suis très malheureux. Ça m'a fait de la peine beaucoup de savoir qu'éventuellement j'avais pu choquer des gens. Mais c'est évident que maintenant, c'est complètement plus possible. Donc j'ai enlevé tout ça dans tous mes spectacles. Et je me souviens qu'à l'époque, on était complètement libre de tout. Michel Drucker nous invitait dans les émissions, on m'invitait dans les émissions. Pour justement, je me souviens d'un truc complètement fou qui serait complètement impossible aujourd'hui, c'est de souhaiter la bonne année aux gens, au journal télévisé à 20h, en faisant tous les accents possibles. Ça, c'est une chose aujourd'hui qui est complètement
exclue. Je l'ai vu, alors que vous faites l'accent belge, vous faites l'accent chinois. Je l'ai vu, cette séquence. En préparant l'émission, justement.
Voilà.
Et quel regard vous portez sur l'humour d'aujourd'hui et puis sur la nouvelle génération? Parce qu'il y a une belle génération qui débarque aussi.
Il y en a énormément. On ne sait plus très bien où donner de la tête parce qu'il y en a un qui, à chaque coin de rue, il y en a un qui naît chaque jour. Moi, évidemment, j'ai une passion pour des humoristes qui sont pas de ma génération, mais qui sont juste après, comme Gad Elmaleh, par exemple, ou Alex Lutz, qui sont des gens hyper doués et qui savent faire des choses. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les textes, c'est de dire des choses.
C'est les personnages.
C'est les personnages qu'ils créent. Les textes sont tous plus ou moins les mêmes. Maintenant, les jeunes, aujourd'hui, ils reproduisent les histoires qu'ils ont avec leurs gonzesses.
Le quotidien,
le machin. Moi, le quotidien, ça m'intéresse moins. Ce qu'il faut, c'est faire rêver, quoi.
Alors, nous sommes en cuisine avec Alessandra, sur notre plan de travail, avec les fourneaux. Alessandra au piano, juste à côté. Oui. Je vous propose de passer à la salle à manger, cher Michel, pour aller au restaurant.
Ah, c'est une excellente
idée. On va retrouver Emmanuel Rubin, qui a des choses à nous dire sur le restaurant. On l'a entendu avant la pause. Installez-vous, tiens, Michel. Alors Emmanuel, je le disais, c'est l'heure d'aller au restaurant. Hein. Parfois, le chef, c'est la seule information dont on dispose quand on découvre son resto. Et vous, vous vouliez justement nous parler de ces chefs qui relèguent, vous le disiez, au second plan, l'objet du restaurant, c'est-à-dire le menu, la carte, quoi.
Oui, c'est cette fameuse carte que l'on vous tend. C'est une espèce de tocade, une mode qui s'est installée depuis 15 ans et aujourd'hui qui perdure aussi bien dans les bistrots que dans les restaurants macaronnés, c'est-à-dire le menu unique, autrement appelé le menu surprise. Vous arrivez, et là, vous n'avez pas le choix. Généralement, 3, 5, 7 services ou 5, 7 séquences. Et la beauté du restaurant et vos premiers souvenirs de restaurant, c'est quoi la magie ? C'est pas votre première fourchette, c'est pas votre première assiette, c'est pas votre première saveur. C'est cet instant où vous sortez du domestique, où soudain, vous avez le choix. Où vous pouvez choisir entre 2, 3 entrées, 2, 3 plats, et ça change de la cuisine de maman ou de papa. C'est ça un restaurant, et ça reste ça. Aujourd'hui, pour plein de raisons, on vous impose une sorte de diktat de ce menu-là. Et ce qu'il y a d'agaçant, c'est qu'effectivement, non seulement ça retire le choix au restaurant, mais ça emmène à quelques petites tocades, là encore une fois, et à quelques petites scénettes assez intéressantes. C'est ce maître d'hôtel.
Vous pensez à quoi alors ?
Ben, c'est le maître d'hôtel qui arrive, qui s'installe et qui commence au service par cette phrase absolument étonnante. Vous n'avez pas d'allergie ou de contre-indication alimentaire. Alors là, on a déjà la sirène des urgences qui pointe. On a deux doigts de sortir la carte vitale.
On vient de l'entendre.
Ah, c'est extraordinaire.
Sincèrement. Oui, alors, ce côté hygiéniste, il agace déjà beaucoup. Mais au-delà même de ce problème de l'allergie ou de la contre-indication alimentaire, c'est quoi ? C'est surtout qu'on oublie de vous dire, le restaurant, ce n'est pas simplement le choix, c'est aussi l'envie. Pourquoi ce soir-là ou ce déjeuner-là, j'aurais besoin et l'envie d'un agneau ou du miel ? Non, non, on vous impose. Alors, comme toujours, vous savez que c'est là encore une fois ma tocade.
Je sais que ça vous parle. Vous écrivez dans le Figaro, dans le Figaroscope, et c'est quelque chose
On les voit partout.
Oui. Et partout dans le pays. Hein, ça
partout dans le pays. Alors là, aussi bien en province qu'à la campagne.
Et à des prix souvent, effectivement, qui peuvent être intimidants aussi.
Alors, au tout départ de l'action, c'était il y a 15 ans. Nos amis, les bistronomiques, avaient effectivement installé ce menu-là. Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient... On n'a pas envie de s'enfermer, nous, chefs, dans l'uniformité. Vous savez que l'uniformité, ça crée l'ennui. Ils disaient, on va changer nos menus tous les deux jours, en l'imposant, mais au moins, on rebondira sur la saison, soit. Et puis, ces restaurants-là, ils n'avaient pas toujours les moyens de se lancer. Et donc, ça leur permettait, ce menu unique, d'avoir un prix fixe, généralement bon marché, qui te permettait de contrôler un petit peu tes achats, et le calibrage et le portionnage. Simplement, 10 ans après, la créativité, on la cherche, plus ou moins. Par contre, l'addition, elle est devenue inflationniste. Puis alors, surtout, il faut voir les phraséologies. C'est-à-dire que désormais, surtout dans les restaurants de l'en haut, là, on vous parle, il va falloir entrer dans l'univers du chef.
De l'œuvre, on m'a dit, vous allez écouter l'œuvre du chef qui sera servie en plusieurs services.
À vous de tourner les pages du grand roman de la cuisine
ça
du
lui,
chef.
Ça ne lui parle pas, Michel Leb.
Non, non, non.
Vous qui aimez
trop.
Passer du temps dans le Luberon, c'est les petits bistrots, c'est les platanes, voilà. C'est cela que vous aimez.
Dans le Luberon, en particulier à l'Île-sur-Sorgue, il y a un petit restaurant qui s'appelle le Jardin du Quai. Et c'est formidable parce que là, précisément, il vous propose un certain nombre de choses et vous pouvez choisir. Est-ce que tu veux commencer par de la viande ou du poisson ou continuer par quoi ? Il y a un choix, mais oral. Il n'y a pas vraiment une carte. C'est comme ça.
Mais il y a au moins du choix.
Et tu dis, ouais, alors voilà, on a du choix. Il y a un échange. Et puis, voilà, c'est selon l'ambiance qu'il y a, selon la forme que vous avez, ce que vous avez besoin ce jour-là, ce dont vous avez envie. Et là, ça tombait bien. Et c'est toujours vraiment, toujours excellent et toujours... Très originalement fait.
Vous venez d'employer deux mots, le choix et l'envie.
Voilà,
c'est ça un restaurant.
Ouais, exactement.
La musique adoucit les mœurs. Oui. C'est bien ça, hein ?
Ah oui,
ça, oui vous aimez la musique ?
Bah non, pas et du tout. Je déteste tout. Ça. Bah,
alors, on va vous forcer à écouter de la musique.
J'ai horreur de ça.
Et on va faire la playlist de votre vie juste après la pause.
Ah,
Michel Leb. Bon dimanche midi et on est en cuisine avec Alessandra Montagne. Et je peux vous dire que la radio n'existe pas encore en onde olfactive, mais ça sent très très bon.
Excellent.
À tout de suite.
Europe 1. 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à la table du dimanche. Vous pouvez vous abonner au podcast sur europe1.fr si vous avez raté le début. Nous sommes ensemble depuis 11h avec Michel Leb. Alors avant le plat du jour qui est un cabillaud avec de l'aubergine et du topinambour, Alessandra Montagne, dites-nous ce que vous êtes en train de préparer. Là, il y a une belle couleur orangée, je vois, sur le plan de travail.
Voilà, là tout de suite, je vous prépare une focaccia à la carotte. Donc j'ai remplacé la farine par un jus de carotte.
Remplacer la farine
par le jus. Non, pardon, j'ai remplacé l'eau par le jus de carotte.
Ah oui, c'est ça. Je donc me c'est comment ça. Elle tient votre focaccia.
Ah, on sent le professionnel. Ah,
non, je suis en train de pocher en
oui,
même temps.
Je vous parle pendant que vous faites quelque chose, et ça, c'est vrai c'est qu'on n'aime pas quand on cuisine, faire deux choses à la fois.
Ah oui, moi, je déteste ça.
Normalement, je devais y arriver. Je
quand
suis
vous
une
faites
femme,
vos embrouillés, vous n'aimez pas.
J'aime pas qu'on me dérange.
Quand on casse les coquilles, on n'aime pas être dérangé.
Non, j'aime pas être dérangé. Mon œuf coq, il faut que je sois à côté. Vraiment, je le quitte pas.
Je voudrais qu'on parle de musique avec vous, Michel Lay, parce que c'est une de vos grandes passions, ça, la musique.
Le jazz en particulier, oui.
Le jazz, et vous êtes un des rares artistes qui fait de la scène, qui fait du théâtre, du one man et de la télévision, qui a une discographie.
Ah oui, j'ai fait quelques albums.
Et comment oui. Plusieurs oui. Albums, oui. Oui. Donc le jazz, effectivement, ça vient d'où cet amour du jazz?
Oh, ça vient de l'enfance aussi, parce que quand j'ai eu une douzaine d'années, ma mère m'a offert un album de Ray Charles. Ray Charles, c'est quand même le père de la soul music et du blues aux États-Unis. Bon, moi, je suis devenu fou amoureux de Ray Charles quand j'avais 12, 13, 14 ans. Et du blues au jazz, il n'y a qu'un pas. Donc, je suis plongé dans l'univers du jazz. Et maintenant, bon, je n'écoute pratiquement que ça.
Eh ben alors, je vous propose de remonter le cours et le fil de votre vie et du temps. Avec quelques extraits, vous allez me dire à quelle période de votre vie ils vous font penser. Il n'y a pas que du jazz, hein, Michel.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me fait penser à mon père. Il chantait dans sa baignoire, lui. Quand il était allongé dans sa baignoire, il chantait. Il chantait de l'opéra comme ça. Il chantait pas terriblement bien, mais bon, moi, je l'entendais chanter quand j'étais tout gamin. J'entendais des trucs comme ça.
La Traviata,
bien sûr, oui. Il chantait ça.
Il adorait l'opéra, votre papa.
Oui, mon père adorait l'opéra. Il chantait toute la journée.
Et votre maman était italienne, d'origine italienne.
Oui, alors elle chantait des leaders allemands. C'est complètement bizarre. Non, mais c'est vrai que...
Parce que votre papa était d'origine allemande. Hein.
Oui,
d'origine allemande. Leb, c'est allemand.
Oui, c'est allemand, paraît-il. Et donc, voilà, j'avais d'un côté mon père qui chantait de l'opéra, de l'autre côté ma mère qui chantait des chansons françaises. Elle adorait, je blaguais tout à l'heure, mais elle chantait tout traînait, par exemple. Elle adorait Charles Trenet, elle chantait... magnifiquement bien. C'est grâce à elle si j'ai découvert la chanson et en particulier les chansons françaises.
Avant de continuer la playlist de votre vie, Michel Lay, regardez ce qui arrive. Voilà, Alessandra Montane, venez avec nous à table nous montrer. Alors là, c'est une si la saviez. Focaccia à la carotte.
Oh là. On dirait presque un dessert.
Ah ben oui, c'est fou ça.
Voilà. Mais écoutez, régalez-vous bien.
Qu'est-ce que j'ai bon.
C'est délicieux.
Moi, j'admire les gens comme vous, ben, tous les cuisiniers, les grands cuisiniers, les grands chefs. Le plaisir qu'il donne aux gens, en fait. Quand on sort d'un bon restaurant, on dit merci au chef, merci, c'était excellent, on s'est régalé. Quand les gens sortent du théâtre, c'est la même chose, on leur donne du plaisir. Et ce plaisir-là, c'est extraordinaire.
C'est le point commun entre vos deux métiers. Hein.
Je trouve aussi. Merci. Donner du plaisir aux gens, et c'est formidable, ça.
On continue avec la playlist de votre vie, cher Michel Lay, tiens, un extrait. Right through the very heart of
it, New York, New York. Alors lui, hein, intouchable.
The Voice, Sinatra.
Ouais, intouchable.
Intouchable, mais vous l'avez rencontré.
Oui, alors j'ai eu de la chance, j'ai parlé avec lui. C'était un truc assez marrant d'ailleurs, parce que c'était un soir où il recevait la médaille de la ville de Paris, Chirac lui remettait ça, etc. Et à un moment donné, Sinatra disparaît dans une petite porte avec Chirac. Je dis à Béatrice, ma femme, qui est toujours à côté de moi, je lui dis, il s'est barré là, mais c'est con, on ne peut même pas lui dire un petit bonjour, etc. À ce moment-là, Chirac ressort de cette pièce où il s'était, je l'attrape, je lui dis, écoute Jack, est-ce que c'est possible qu'on aille serrer la main de Sinatra, ça me ferait plaisir de le rencontrer. Il me dit, je vais aux toilettes, et je reviens, je te fais rentrer. Il était pressé, il allait aux toilettes. Bon, alors il va, il repasse devant, il dit, viens, suis-moi. Alors, hop, et Chirac lui tape sur l'épaule, il fait, I'm sorry to disturb you. Let me introduce you, Mr. Lieb, which is a French comedian. Alors Sinatra se retourne. Puis donc Chirac se casse, tout ça. Donc je reste face à Sinatra et je commence à lui dire, écoutez, c'est formidable parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je vous serre la main, c'est un grand jour. Et l'autre, il dit, bah, prenons un verre, trinquons, on trinque, ting. Je lui dis, ça va, vous êtes content, Paris, c'est une ville, c'est merveilleux. Et comment ça, il attaque sur un truc, mais j'étais scié. Il me dit, ouais, je ne suis pas très en forme. Je viens de recevoir un fax de chez moi, de Palm Springs, où j'habite. Ils sont en train de refaire ma maison et ils ont peint ma salle de bain en verre. Et ça, je déteste le verre. Ah bon, c'est passionnant, c'est une conversation qui s'engage, qui est passionnante. J'ai dit alors que si, eh ben alors je suis furieux parce que je voulais une salle de bain jaune et là elle est verte. Alors ça va pas du tout, ça me gâche ma journée. Merde, alors je suis désolé, mais je voulais lui parler de jazz, de musique, de grand orchestre, de Count Basie. Et il me dit, c'est ma salle de bain, mon obsession. Ah bon, alors j'ai dit, ok. Alors on s'est resserré la main, je suis parti, dépité, déçu et tout, écœuré.
Allez, on continue la playlist de votre vie. Je pense que vous allez trouver très très rapidement et très facilement ce dernier titre. Emmanuel Rubin, oui, mais il lève les yeux au ciel parce que je vois qu'il est séduit par la voix, Emmanuel Rubin.
Séduit par la voix, mais je la trouve pas.
Ben oui.
Je suis nul.
Il va vous aider, Michel Leb. C'est une très grande voix et qui lui est très très proche.
C'est ma fille, Fanny.
The Girl I Was. Alors, vos enfants étaient influencés par votre carrière, hein, Michel. Vous avez une fille qui travaille dans le cinéma, Fanny qui chante, Tom qui est dans la chanson et dans la comédie. Ça fait plaisir de voir une dynastie, une destinée, une lignée, comme on dit.
Bah, oui, bien sûr. Ils ont baigné toute leur petite enfance là-dedans, donc c'est presque naturel. Donc c'est merveilleux de voir mon fils Tom, comment il se débrouille bien et comment petit à petit il grimpe les échelons du cinéma et de la chanson. Ma fille cadette Elsa, qui elle vient d'accoucher, là, il y a deux jours, d'une petite fille. Donc ça, c'est aussi magnifique. D'être grand-père, c'est un moment unique et très, très émouvant. Et puis enfin, ma grande première, j'appelle ma grande première, c'est Fanny Leb, qui enregistre, qui chante, qui crée, qui fait des concerts à droite à gauche, à qui il est arrivé une saloperie épouvantable.
C'est battu contre un cancer du sein.
Un cancer du sein
agressif, ouais.
Très agressif, très agressif, un triple X, et qui est actuellement en rémission et qui bon, évidemment se bat tous les jours pour tenir et continuer à enregistrer, chanter, et avec un moral d'acier. Elle est un exemple pour beaucoup de monde, pour beaucoup de gens et beaucoup de femmes qui sont atteintes de cette maladie. Elle chante, c'est des choses magnifiques. Elle a un talent inouï. Elle est belle comme le jour. Voilà. Bon,
une énergie, on l'entend.
Une énergie incroyable. Oui. Une énergie incroyable.
Des voix surtout.
Elle a une voix. Et une voix, absolument. Michel Leb, papa, chanteur, comédien avec nous jusqu'à midi et demi. Dans un instant, on va accueillir un nouvel invité. C'est Alain Baraton, le spécialiste des plantes, des arbres et du potager. Mais avant, on écoute bien une voix qui est importante pour vous aussi. C'est Ray Charles.
Ah oui.
Le fameux Ray Charles avec Georgia sur Europe 1. Allez, bon dimanche, merci. Les amis.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peace.
dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia.
C'était Ray Charles sur Europe 1 avec Georgia. Michel Leeb, papa, chanteur, comédien, avec nous jusqu'à midi et demi. Et dans un instant, on accueille un nouvel invité, c'est Alain Baraton, le spécialiste des plantes et des arbres sur Europe 1.
Europe 1, 11h, midi 30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire et bon app si vous êtes à table les amis. Nous revoilà en compagnie de Michel Leeb avec Alessandra Montagne en cuisine. On s'apprête à déguster du poisson et pas n'importe quel poisson et avec des légumes de saison. Redites-nous le plat du jour, tiens Alessandra.
Alors, le plat du jour aujourd'hui, ça va être un cabillaud que j'ai cuit à température pas très élevée pour qu'il reste vraiment un nacré à cœur.
Vous avez donné un petit coup de chalumeau au début de l'émission.
J'ai donné un petit coup de chalumeau au début de l'émission et vous allez le manger avec des aubergines fin de saison et avec du topinambour blanc début de saison.
Voilà,
donc on est à cheval sur les deux saisons.
que je prenais pour des bulots de loin.
Oui, pour des
et mais que vous allez goûter et me dire si ça vous plaît ou pas.
C'est le côté tortillonneux. Hein.
J'aime beaucoup le cabillaud. Hein.
Ah bah vous allez vous régaler. Voilà. Et on peut goûter la cuisine d'Alessandra Montagne à Nosseau à Paris dans le 13e arrondissement. Avant d'accueillir Alain Baraton à cette table, le théâtre permet de rencontrer les Français, de communier avec les Français. Il y a un autre endroit qu'on aime beaucoup, ce sont les marchés. Vous aimez aller sur le marché de temps en temps, Michel Leeb?
Je vais au marché de Coustelet par exemple à...
Magnifique marché Coustelet, marché paysan de Coustelet,
sûr, en Provence, oui.
Dans le Luberon. Ah, alors oui, là, avec de beaux producteurs locaux, là, on les salue. Oui.
Très beau, absolument.
Eh bien, nous sommes allés au marché, figurez-vous, pour demander aux Français ce qu'ils aimeraient partager avec vous à table, s'ils vous invitaient.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Si je vous dis Michel Leeb, qu'est-ce que vous me répondez?
C'est beaucoup de pinas.
Envie de rire.
Quelqu'un de très humain, très tourné vers les autres.
Sympa, jovial.
Imitation.
Alors, si je vous dis, pour le déjeuner, il s'invite à votre table.
Ah, on est ravis de l'accueillir.
Je crois que c'est un très bon dessert et un très bon apéritif.
Qu'est-ce que vous lui préparez à déjeuner?
Des crevettes à l'apéro.
Comme plat principal, une tartiflette.
Je lui ferai des plats traditionnels, c'est-à-dire blanquette de veau, puis une bonne tarte.
Peut-être une dorade avec des moules, des quenelles et du vin blanc.
Blanquette, une daube, toujours un plat mijoté chez moi. Que ça soit de bonne bouffe parce qu'il doit être, bon vivant.
De quoi vous auriez envie de parler?
Probablement de théâtre. Moi, je l'ai vu dans une pièce où je l'avais trouvé excellent.
C'est lui qui me ferait rire, je suppose.
Oh, des sujets légers, hein, parce qu'avec lui, il faut toujours rire.
Il faut qu'il vienne vite parce qu'il nous manque.
Eh bien, on va lui dire.
Et on l'embrasse très, très fort.
Eh bien, il est là, il est à la table du dimanche.
Je suis avec vous, là. Alors, bon appétit à tous. Hein.
Vous leur manquez, mais alors voilà, ils peuvent venir vous voir à Paris et vous allez aller en région avec la tournée d'Inavouable.
Ben, bien sûr, parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est d'aller vers les gens.
On vous voit comme un bon vivant. Hein.
Oui, ben, je suis un bon vivant, j'aime la vie, j'aime manger.
La dorade.
J'aime la dorade, j'aime les bons plats. Je fais attention, hein, parce que je ne mange pas n'importe quoi, n'importe comment. Hein.
Oui, puis vous jouez tous les dimanches à 15h, donc là,
voilà.
On va faire live.
Je fais très attention à ce que je mange et je vous dis, je fais beaucoup de sport, donc ça aide beaucoup.
On va accueillir quelqu'un qui est gourmand aussi et qui nous régale par son savoir depuis des années maintenant. Sa voix et puis sa main verte, eh bien, on fait sa réputation, on l'accueille à notre table, vous le connaissez, c'est Alain Baraton. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Alain Baraton, Michel Leeb.
Le très grand pote de Louis XIV.
Exactement.
Un intime, on peut le dire.
C'est ça, vous le connaissez bien puisque vous êtes responsable du jardin du parc du château de Versailles. Et vous êtes rentré au château de Versailles très très jeune et vous n'en êtes jamais reparti.
Depuis 1976, je veille aux destinées de ce jardin en toute modestie, assez hors du commun.
Bravo. C'était la sécheresse en 76.
Oui, de là à me soupçonner de porter la poisse, pourquoi pas.
Mais, rien dit.
Non, mais il est vrai que j'ai connu la sécheresse, j'ai connu la tempête, j'ai connu des gelées incroyables. Je me demande, il y a des fois, si j'avais vraiment ma place à Versailles.
Vous venez de sortir un très beau livre, Alain Baraton. Je le conseille à tous nos auditeurs et je vais vous l'offrir, Michel Leb.
Ah ben oui, j'adore ça.
C'est le Dictionnaire amoureux des arbres. Ah, c'est paru chez Plon. Qu'est-ce que ça évoque, tiens, pour vous, les arbres, Michel Leb ?
Moi, j'ai chez moi, là où j'habite en Provence, j'ai un tilleul qui doit avoir 300 ans, qui a été classé, auquel, évidemment, je ne peux pas toucher, sous lequel, moi, je me repose l'été quand il fait bon, parce que c'est une fraîcheur inouïe, le tilleul. Et tous les matins, quand je pars marcher ou quoi, comme ça, je le prends dans mes bras, quoi qu'il fait, il est très large, hein, et je l'embrasse, parce que ça me fait un bien fou d'embrasser les arbres.
Voilà. Ben vous avez raison. Alors, en France, on a inventé un nom un peu particulier, j'en parle dans le livre, la sylvothérapie. Oui. Les Japonais, eux, ils parlent de bain de forêt. C'est quand même beaucoup plus joli.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est efficace d'embrasser un arbre,
mais je sais que
la présence des arbres, par contre, nous fait du bien.
Ah, oui.
C'est incontestable.
C'est scientifique, ça fait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress que nous avons en nous, avec cette sylvothérapie dont vous parlez, Alain Baraton, ça a été prouvé qu'au bout d'une demi-heure en forêt, eh bien, on se détend et que le taux de cortisol baisse considérablement.
C'est
quoi.
C'est vrai.
Lesquels retiennent votre attention ? Tiens, en ce mois d'octobre, là, c'est l'automne, c'est vrai qu'on aime bien se promener dans les bois, il y a les châtaigniers, il y a les feuilles mortes.
En automne, ce sont tous ceux qui vont prendre des couleurs flamboyantes. Les forêts de hêtres en ce moment, ou les érables, sont d'une beauté à couper le souffle. Mais j'ai toujours cette tendresse pour les très vieux arbres. Comment ne pas être ému devant un arbre qui a une histoire à vous raconter ?
Oui.
Le tilleul de 350 ans, il a peut-être lui aussi pris dans ses branches Michel Leb, mais peut-être qu'il a pris d'autres personnes contre lui. Il est le témoin d'histoires passées incroyables.
Oui.
À Paris, le robinier du Square Viviani, il vit à deux pas de Notre-Dame. Il a été planté sous Henri IV. Vous imaginez ?
C'est le plus vieil arbre de Paris,
c'est
ça.
C'est le doyen. Et le doyen français, c'est l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, 2000 ans. Et le doyen des arbres vivants sur Terre, écoutez bien, c'est un sapin qui vit dans le nord de la Norvège. Il est âgé de, je n'ai pas bu, je ne me drogue pas, de 9500 ans.
Oh.
Il est vivant, 9500 ans.
On arrive comme cela à dater.
Par la dendrochronologie.
On le coupe et puis on trouve.
Ah oui.
Mais vous souriez.
Non, c'est vrai.
J'en parle dans cet ouvrage
je sais.
De ce crétin américain qui a coupé un arbre pour vérifier s'il avait bien 4500 ans. Et il avait bien 4500
ans. C'est
un sketch. Non, c'est pas un sketch, malheureusement.
Allez, on va continuer à parler des arbres, du potager, de la cuisine et du théâtre avec Michel Leb, notre invité, jusqu'à midi et demi. Et puis vous, Emmanuel Rubin, vous allez nous parler des auberges.
Oui.
Mais des nouvelles auberges qui tirent sur la gastronomie. Bon dimanche, les amis, sur Europe 1.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Eh bien, nous voilà de retour à la table du dimanche. Bon appétit si vous
avec
êtes Guy à
Lux,
table.
Guy Lux qui est là, qui est revenu parmi nous.
Voilà. Mais oui, mais il nous manque, Guy Lux, moi je
trouve. C'est vrai.
Il vous a fait démarrer à la télévision, Guy Lux, Michel Leb aussi.
Oui. Bah, il m'a mis dans une émission avec Johnny Hallyday et Michel Sardou. Je me souviens que je devais faire un petit sketch entre les deux. Donc, il m'a dit, tu feras un petit truc très court le temps qu'on installe les caméras, Coco, sur Michel Sardou. Et alors, bon, moi, je m'étais préparé. Johnny finit de chanter. Et à ce moment-là, Guy Lux fait « Et maintenant, nous allons accueillir notre Michel National !» Je dis « Vachement sympa, c'est la première télé que je fais. Déjà, je suis le Michel National, c'est extraordinaire. Et voici Michel Sardou !» Il m'a complètement zappé. Et les caméras sont passées comme ça, à 200 à l'heure devant moi. Et je suis resté tout seul comme un con. Et voilà.
Et ben, vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi à cette table. Et Alain Baraton...
Dans cette émission à la con.
Nous a rejoint, auteur, chroniqueur et jardinier passionné. Alain Baraton, vous venez nous voir avec votre dictionnaire des arbres qui vient de paraître chez Plon. Vous parlez de Pompidou dans ce livre. Pompidou, qui était un fou de voiture. Et à l'époque, pour la sécurité routière, on voulait abattre les platanes en France. Et vous ressortez la lettre qu'il a envoyée à Chaban-Delmas. En
1971, une lettre sublime où il défend les arbres le long des routes. Malheureusement, Chaban va perdre son épouse quelques mois plus tard seulement, qui, elle, s'est fracassée contre un platane. Donc, la lettre restera, sans jeu de mots, lettre morte. Mais il est vrai que Pompidou écrit une lettre sublimissime où il prend fait et cause pour le paysage français et pour les platanes.
Vous prenez régulièrement position sur des questions environnementales, Alain Baraton, sur la déforestation, sur la place des arbres dans nos villes.
Oui.
On leur donne assez de place à nos arbres dans notre société?
Je suis toujours un petit peu étonné. On parle beaucoup aujourd'hui de permaculture, de développement durable. On fait des commissions qui coûtent une fortune. On prévoit le temps qu'il fera demain. On organise... Il suffit de planter des arbres. L'arbre, il règle tous les problèmes. Vous voulez régler le réchauffement des températures, vous plantez des arbres. Vous voulez lutter contre le problème des inondations, vous plantez des arbres. Mais planter des arbres ne demande que de la volonté. Et je trouve un peu navrant qu'aujourd'hui, eh bien, on ne plante pas suffisamment d'arbres. On fait beaucoup de blabla, mais que finalement, la situation de la planète aujourd'hui est celle que l'on décrivait déjà il y a 30 ans. Il n'y a rien à bouger.
Oui, mais non, c'est très très juste ce que vous dites. Moi, je ne suis pas du tout... spécialiste des arbres, mais le fait de voir des arbres en moins partout, c'est quelque chose qui, même moralement, nous démoralise.
Oui,
quand on déforeste entièrement des zones comme l'Amazonie, c'est terrifiant à imaginer.
Tout à même en France, par exemple d'Arcachon, on va couper des champs de pin pour y planter du maïs.
Oui.
Replantons des arbres.
Exactement.
Partout, c'est possible.
Ah bah, tiens, alors, ça m'emmène à Alessandra Montagne, notre chef du restaurant Nosso dans le 13e arrondissement. Vous êtes originaire du Brésil, Alessandra. La déforestation, ça vous parle, là, les forêts d'Amazonie
qu'on
déboise pour planter du soja. Quel regard vous portez sur ça, vous? Ce sont vos racines?
C'est désespérant de voir que. En un an, il y a 9000 km² d'Amazonie qui ont disparu. Les chiffres sont horribles. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde est au courant et on n'a aucun pouvoir. On ne peut rien faire. C'est une véritable mafia auquel tous les Brésiliens et le monde entier assistent.
Voilà pourquoi vous faites attention à tout ce qui est gaspillage aussi en cuisine.
C'est
vous êtes très investi sur le gaspillage alimentaire parce qu'on gaspille énormément dans le monde.
Hein. Ouais. Oui, enfin, on gaspille beaucoup dans le monde, en Europe, en France. C'est mon petit combat, ma petite goutte d'eau, mais j'essaye vraiment de profiter absolument tous les déchets. Là, la focaccia que vous mangez, par exemple, qui est faite avec le jus de la carotte, les déchets qui restent dans la centrifugeuse. J'ai fait un cake à la carotte que je sers à Miniardise. Chaque personne qui prend un café, le jour où j'ai assez pour faire le cake, je donne un petit morceau de carotte, du cake à la carotte.
Donc, on ne jette rien.
C'est mon petit geste, tout petit.
Le plat du jour va arriver bientôt, Michel Lèbe.
Ça arrive, je vais le servir
partout.
Maintenant.
Il regarde partout, Michel Lèbe.
Ça sent bon.
Il est où,
hein,
ce cabillaud, parce qu'il est longtemps parlé.
Il cabillaud, parce que je vois qu'il frétille au fond du four. Dites-moi, je voulais vous parler aussi des platanes qui ont souffert il y a quelques années en Provence. Et où du tout, il était question qu'on les abatte tous, parce qu'ils étaient tous malades.
Non, non, ça a coupé, malheureusement. Et le long du canal du Midi, pour une bêtise incroyable. Cette maladie, c'est un chancre qui est arrivé pendant la guerre dans les caisses de munitions de l'armée américaine, on le sait.
Ah oui.
Et simplement, au lieu de prendre le problème à la base, on a utilisé ensuite des outils d'un arbre sur un autre sans désinfecter. Quand vous allez chez le dentiste, par exemple, j'ose espérer qu'entre vous et le patient d'avant, le dentiste a pris soin de désinfecter les outils.
Ah, on préfère, oui.
Eh bien oui, pourquoi ne le fait-on pas dans le domaine du végétal? Moralité, 40 000 platanes du canal du Midi doivent être coupés. Ils sont morts et très contagieux.
Oh là là.
C'est un drame, alors qu'il aurait pu être réglé dès le début.
Ça, c'est dingue, ça.
40 000.
Mais on le savait à l'époque ou on l'a découvert après?
On l'a su, mais quand on parle du domaine du végétal, on prend toujours ça avec beaucoup de légèreté.
Bien sûr.
Le végétal, finalement, est pour beaucoup un matériau. Est-ce que c'est vraiment si grave si on coupe les arbres? C'est dramatique pour l'environnement. L'arbre, c'est l'air que nous respirons. Ce sont les oiseaux qui y nichent, ce sont les insectes.
Absolument.
C'est en un mot, c'est la vie.
C'est un écosystème.
Oui. Très juste.
Alors, il y a le jardin aussi, le potager, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est l'antichambre de la gastronomie, Alain Baraton. C'est là où tout commence.
Je suis heureux, vous n'avez pas idée à quel point. Heureux que le potager ait enfin retrouvé ses lettres de noblesse. Il y a quoi, 20, 30 ou 40 ans, le jardinier qui cultivait un potager était un bouseux. Aujourd'hui, il devient un seigneur. Que seraient aujourd'hui les très grands restaurateurs sans les potagers à côté de leur restaurant?
On en a parlé la semaine dernière avec Emmanuel Rubin. Ouais.
Moi, j'ai la chance de fréquenter
c'est
régulièrement...
Le vrai potager, hein. Ouais. Pas le potager artificiel.
Non, le vrai, oui.
Vous parlez, pardonnez-moi, à un spécialiste du vrai potager.
Il a été élevé à la Baraton par ses parents et ses grands-parents qui lui obligeaient à bien finir ses assiettes en lui disant « Écoute, ce légume, il n'a pas poussé n'importe comment, il faut le finir. Hein. »
Oui, parce que je n'avais pas encore conscience qu'une salade, ce n'était pas qu'une graine qui avait donné des feuilles, c'était l'amour d'un grand-père et la sueur du grand-père. Et j'ai créé à Versailles le potager de la Reine avec Alain Ducasse, car on voulait prouver qu'il était possible de produire des légumes sans aucun produit chimique, ni même adjuvant de quelque nature que ce soit. On a fourni pendant quelques années les tables d'un triplement étoilé, comme quoi on peut être fier, comme quoi on peut produire sainement en quantité et de manière, j'allais dire, satisfaisante.
Et de respecter les saisons déjà. Et regardez ce ballet.
Cabillaud.
Oh là là, la transition est magnifiquement faite. On parlait de saison et voilà, ça c'est. Oh, il est beau ce plat, un cabillaud. Avec une mousseline, elle va nous expliquer, Alessandra Montagne, une mousseline de topinambour.
Où elle arrive avec une râpe et un citron.
Et de l'aubergine. Et ce que j'aime, c'est que là, c'est la conjugaison de la saison, c'est la fin de l'été et le début de l'automne.
C'est
là.
Ça.
Hop là, le petit zeste. Citron,
je peux me permettre une petite parenthèse.
Mais allez-y, Alain.
Parce que le potager produit des légumes, bien sûr, mais qui ont des noms charmants, topinambour. Bah, les topinambours, ça vient tout simplement du nom d'une tribu du Brésil. Et quand ils sont venus exhibés comme des bêtes, d'ailleurs, dans les eaux français à la fin du 19e siècle, on pensait qu'ils mangeaient les topinambours. Et on a donc donné aux légumes le nom de la tribu.
Très bien. Ah oui, c'est vrai que c'est originaire d'Amérique du Sud, le topinambour. Oui, absolument. Avec ce petit goût proche de l'artichaut. Vous nous régalez déjà avec les yeux, Alessandra Montagne.
Merci.
Et si les auditeurs prennent l'émission en route, ils retrouveront le début en s'abonnant au podcast sur europe1.fr. Et maintenant, on va leur dire justement ce qui se passe dans cette assiette avec vous, Alessandra.
Donc, vous avez le topinambour que j'ai fait rôtir avec un petit peu de thym et de l'ail, un peu d'huile d'olive. Je le cuis tout doucement depuis le début de la matinée, depuis 11h30. Pendant ce temps, j'ai préparé mes entrées, mon amuse-bouche, le dessert que vous allez goûter tout à l'heure, et mon topinambour dans le coin de mon feu, comme ça, à cuire doucement.
Vous en avez fait une mousseline, une purée très onctueuse.
C'est ça. Donc, j'ai mis l'aubergine au four à 200 degrés pendant 40 minutes. Et ensuite, je l'ai laissé refroidir. J'ai enlevé juste la peau tout doucement. Et je l'ai mixé avec un petit peu de crème. Et un petit peu de tahine.
Voilà.
C'est un produit que j'aime beaucoup, le tahine.
Délicieux.
C'est délicieux,
ça. Voilà.
La mousseline, c'est du tahiné, c'est cette pâte de sésame, cette
purée
de
sésame.
C'est pâte
de sésame avec aubergine.
Avec l'aubergine qui était mixée.
C'est ça.
Et le topinambour, il est juste rôti, là.
Juste rôti. Comme ça, on a toute la texture de topinambour avec la peau, parce qu'on n'a pas enlevé la peau, c'est croustillant.
Parlez-nous de la cuisson de votre cabillaud, parce qu'il est
incroyable. Un vrai terre-mère, ça.
La chair est nacrée, oui, c'est une belle association terre-mère.
Alors, le cabillaud, j'ai simplement cuit à 35 degrés pour justement garder ce côté vraiment...
Nacré.
Cru, mais nacré, voilà, le mot exact, c'est ça. Et après, je l'ai chauffé au chalumeau pour ce côté, ce goût légèrement brûlé, mais pas trop. Et je l'ai réchauffé au four un tout petit peu pour qu'il soit chaud à cœur, pas trop cuit.
C'est caressant.
Voilà, c'est ce que je voulais avec, au final, cette petite note de citron zesté juste à la dernière minute.
Pour la fraîcheur, oui.
Pour la fraîcheur. Et puis là, on est définitivement dans l'hiver avec le citron.
Regardez, vous avez eu Michel Leb, comme il se tient bien à table.
Il a tout mangé.
Mais tout le monde,
c'est
tout
un
monde.
Grand
il y a
bravo.
Et vous qui n'avez pas mangé.
Je parle depuis tout à l'heure.
Vraiment léger, bon, extraordinaire. C'est frais, c'est magnifique.
Quel genre de mangeur vous êtes, Michel Leb?
Ben, le problème, c'est que je suis toujours pressé, alors je mange un peu vite, ce qui n'est pas bien du tout, c'est pas bon. Mais j'aime les choses, je suis assez gourmet plutôt que gourmand.
Ben, ça, c'est ce qu'on a vu. Ah, c'est oui. Ce qu'on a vu. Ah, et oui, vous, oui. Alain Baraton, quel genre de mangeur êtes-vous?
Je serais plutôt gourmand que gourmet.
Ben, vous voyez.
Quoique l'un n'empêche pas l'autre, mais non. Il est vrai que j'ai tendance à beaucoup manger, peut-être un petit peu trop.
Ah. Vous avez bien fini votre
assiette. Je voulais vous le dire en arrivant.
Oui, c'est gentil de me le faire remarquer.
Une mousseline d'aubergine avec de la purée de sésame, du topinambour rôti et puis cette belle part de cabillaud juste nacrée. Ne bougez pas, on continue à conjuguer la nature et l'assiette à la table du dimanche. Et Emmanuel Rubin, vous allez nous emmener dans nos auberges pour cette dernière partie.
Laurent Mariotte dresse la table du dimanche sur Europe 1.
On est à table, un bon appétit si vous l'êtes aussi. Vous retrouverez le début de l'émission en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. Ce dimanche, on parle théâtre, musique et nature avec Michel Leb et Alain Baraton. Michel Leb sur les planches dès cet après-midi, tiens, 15h à la Comédie des Champs-Élysées, avenue Montaigne à Paris.
Oui, et après en tournée à partir du 5 janvier, je crois, et jusque fin mai.
Inavouable, comédie d'Éric Assous. Et Alain Baraton est venu nous voir avec son dictionnaire Amoureux des arbres, paru chez Plon. Un très bel ouvrage, je vous le conseille, hein, pour maintenant ou pour Noël. Et dans votre livre, vous nous parlez de la signification des arbres au moment de l'édit de Nantes pour les protestants. Certains arbres avaient une signification.
Oui, le pin parasol. Quand vous allez du côté, par exemple, de la Charente-Maritime, quand vous avez des pins parasols dans un jardin, il y a fort à parier que le propriétaire du jardin était un protestant. C'était un signe de reconnaissance entre eux. Et en fait, c'était l'époque où on se déplaçait, on vendait des ouvrages religieux avec des graines pour pouvoir planter l'arbre et ainsi savoir qui était qui.
Les cyprès aussi ont une connotation.
qui souhaitait la bienvenue aux étrangers et qui, de par sa verdure toujours éclatante, même en hiver, était symbole d'immortalité. En plantant un cyprès au pied de votre tombe, c'est l'immortalité que vous gagnez. C'est joli, non?
Ça, c'est beau. Alors, il y a les armes.
Ça donne envie de mourir.
Pas tout de suite.
On va mettre une vingtaine autour. Oui.
Attendez un petit peu.
Oui.
Restez
avec nous. Coco, on va pas en mettre trop non plus.
Restez avec nous jusqu'à midi et demi. Les arbres et puis les légumes aussi, on en parle avec cette belle conjugaison autour de la fin de l'été, symbolisée par l'aubergine transformée en mousseline avec la purée de sésame et puis le topinambour rôti. Emmanuel Rubin, on va vous suivre aujourd'hui sur les routes de France à la recherche d'auberges. Mais attention, pas les auberges telles qu'on les connaissait dans les années 70-80, les nouvelles auberges qui tirent un peu vers la gastronomie. Hein.
Oui, aubergines, quoi.
J'ai envie de
les
dire...
aubergines.
Les aubergines.
Il faudrait peut-être leur donner ce nom-là. Joli, je reprends.
Oui, c'est bien, ça.
Mais j'ai envie de dire, l'auberge est morte, vive l'auberge. Parce que quand vous m'avez dit que nous recevions Michel Leeb et Alain Baraton, j'ai pensé non seulement à l'idée de l'homme de Tournai, puis de l'homme du paysage. Il faut bien le reconnaître, nos auberges, elles ont quasi disparu en 30 ans. D'abord, l'auberge, c'est l'originel du restaurant. C'est le restaurant originel. C'est l'héritier de la malle-poste, du relais roulier, du relais routier. Elles ont configuré cette fameuse National 7. Et puis, des années 50, 60, 70, on allait tous à l'auberge. Qu'elle soit populaire ou d'autres, elle était constitutive de ce que disait Guy de Michelin. Ça vaut le détour, ça vaut le voyage. On s'arrêtait pour une auberge populaire, une auberge d'en haut, mais on s'arrêtait parce qu'elle était éminemment de la campagne.
Et on allait faire un petit détour, l'auberge Exactement. De la Madone, à Payon, dans l'arrière-pays niçois.
Et en vérité, si vous observez bien, au tournant du nouveau millénaire, elle a vraiment disparu. La vérité, si on est très honnête, c'est que nos centres-villes, parce que l'auberge était souvent plantée face à l'église du village, elle a disparu. Aujourd'hui, c'est quoi la gastronomie de nos campagnes?
C'est Léon de Bruxelles dans la zone commerciale?
Exactement. C'est entre deux rocades, cette fameuse ZAC, uniformisée, américanisée, avec des enseignes qui nous servent à peu près les mêmes punitions pour les mêmes motifs. Alors, je ne sais pas pourquoi, comment. Je pense qu'il y avait une volonté quand même de la campagne de singer un peu la ville et puis une déruralisation. En revanche, ce qu'il y a de formidable, c'est un peu à la manière de ce qu'on a vécu il y a 20 ans. Du côté des bistrots parisiens et des bistrots de ville qui se sont réinventés, eh bien on voit une nouvelle génération réinvestir la campagne. Non seulement parce qu'elle a besoin de revenir au vert, alors on voit d'ailleurs un mouvement inverse. Souvent, c'était les chefs de province qui montaient à Paris. Aujourd'hui, c'est les chefs de Paris qui vont s'installer en province. Et puis, ils ont besoin, au nom d'un certain locavorisme, et là, on rejoint le paysage, de revenir de plus en plus à une auberge et à une cuisine qui soit de la terre à l'assiette. C'est pour ça qu'ils ont des potagers, c'est pour ça qu'ils parlent directement aux petits producteurs le plus locaux possible.
L'auberge du Vermont, de Florent Ladène dans les Flandres, par exemple.
Exactement. Il y a un nouveau
livre. Lui, il a une étoile. Enfin, il a eu une étoile, donc vous vous rendez compte, ce sont
donc
des auberges.
C'est une jeune génération soucieuse de revenir à la campagne, de remonter l'auberge un ton plus haut gastronomiquement, avec des prix souvent tout à fait corrects, et puis d'être de plus en plus de la terre à l'assiette. Alors, un livre vient de sortir aux éditions Tanas, ça s'appelle Nouvelles auberges. Vous savez qu'on aime beaucoup la nouveauté dans la gastronomie.
Bien sûr.
Nouvelle cuisine, nouvelle pâtisserie, néo-bistrot. Il est signé de Victor Coutard au texte et d'Anne-Claire Hérault à l'image. Et il recense une dizaine de ces nouvelles auberges. Allez, on en cite quelques-unes, vous venez de le dire. Du côté de Lille, l'auberge du Vermont, c'est Florent Ladène. On l'avait vu du côté de Top Chef. Lui, il réinvente un peu l'idée de l'estaminet. C'est l'auberge de Chassignol. Là, nous sommes du côté d'Issoire, c'est l'Haute-Vienne. C'est un Anglais qui a monté ça, qui, lui, a installé une auberge en résidence. C'est-à-dire qu'une fois par an, il invite un chef à prendre les cuisines. Et puis surtout, mon favori, là, nous sommes à la cabane à matelots, c'est à Bréhémont, c'est en Indre-et-Loire. Nous ne sommes pas au bord de la route, nous sommes au bord de la Loire. Alors, il n'y a pas beaucoup de décors, mais la vue est exceptionnelle et il cuisine tous les poissons de la Loire.
Eh ben, on retrouve ces belles adresses dans de nouvelles auberges de Victor Coutard. Il y a plein de recettes aussi, parce que les chefs cuisiniers livrent et partagent leurs recettes dans ce livre. Vous avez des souvenirs d'auberges, Michel Leeb?
Aucun, je suis désolé.
Mais attendez, avec les tournées et les routes que vous avez faites.
Oui, mais on a fait beaucoup de restaurants, surtout avec mon camarade Pierre Arditi, où quand on joue tous les deux.
Oui, il aime bien manger,
joué,
Pierre.
Il y a deux ans, trois ans, on a joué avant qu'on s'arrête. Et là, je peux vous dire qu'on s'est arrêté partout, parce que Pierre, lui, il est prêt à faire 100 bornes après le spectacle pour aller manger un petit truc. Et ça, c'est incroyable, ça.
Un souvenir d'auberge, Alain Baraton, qui vous aurait marqué?
En quantité, j'ai une épouse qui est très, très cordon bleu et très, elle, gastronome. Donc, je ne dis pas que j'ai fait toutes les auberges de France, mais pas loin.
Oh, joli.
Ah oui. Ce sont des lieux, il y a une âme. Quand on rentre dans une auberge, on ne rentre pas dans un restaurant ordinaire.
Ah, non,
il y a une âme, il y a une atmosphère, il y a un accueil également qui est particulier. Et vous parliez de celui qui est justement près de la Loire et que je connais. Quand on s'installe et qu'on regarde ce grand fleuve incroyable, puis là, il s'en va un poisson pêché dans la Loire.
Ils servent de l'aspe, de la brème, voilà. Du mulet. Des poissons quasiment qu'on ne connaît pas.
C'est la terrine d'Alose aussi, hein, un poisson de la Loire. Ça, c'est très, très bon. Alors, comme il faut toujours terminer sur une note sucrée, Michel Leb, regardez ce beau bijou signé Alessandra Montagne du restaurant Nosso à Paris. Qu'est-ce que c'est que ce dessert, Alessandra ?
Alors, c'est du chocolat avec des baies d'églantier qui ont été cueillies au mois de novembre, séchées. Et je les utilise toute l'année comme ça. Et là, elle est mariée avec du chocolat, avec une tuile de rapadura.
Je suis quand même un peu inquiet parce que la baie d'églantier, c'est le cynorhondon, oui. Également appelé gratte-cul.
Le gratte-cul, oui. Donc, on fait de la confiture.
Bah, oui. Donc, j'espère que vous avez bien retiré les graines.
Oui, on a bien tiré.
Et vous l'avez mise en poudre par-dessus, en fait, c'est ça ?
Voilà, hein, donc on a mis ça en poudre. Et c'est les épices encore.
C'est bientôt l'heure de se quitter, bientôt midi et demi sur Europe 1. Je voudrais qu'on termine avec des coups de cœur culturels, des biens essentiels, comme on dit, pour nos auditeurs. Michel Leb, tiens, une recommandation.
Alors moi, j'ai un bouquin que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que m'a envoyé Christelle Cholet, son dernier livre, ça s'appelle L'Entubé.
Oui, humoriste, showwoman.
Vraiment formidable. Et elle a écrit ce bouquin, et qui sont, par exemple, elle survole les textes de certaines chansons des années 80-90, qui, si aujourd'hui on reprenait les textes et on les remettait sur les ondes, on irait en prison parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très très fortes à l'époque et qu'aujourd'hui on ne peut plus dire.
Bah, donne-moi tes 16 ans d'Aznavour aujourd'hui, il pourrait plus la chanter.
Ça, c'est plus possible. Ou J'ai encore rêvé d'elle, les draps s'en souviennent, bon, etc. etc. Ça, c'est drôle, mais enfin, je ne suis pas sûr que ça. Bon, aujourd'hui, c'est moins sûr qu'on puisse les chanter, ces chansons-là. Enfin, voilà.
Alain Baraton.
La collection Morozov qui est exposée à la Fondation Vuitton. Ah, oui. J'ai eu la chance d'y être invité. Ouais. C'est à tomber à la renverse. Vous avez une collection d'impressionnistes hors du commun, un tableau de Van Gogh, La Ronde des prisonniers. C'est la première fois qu'il est exposé au public. Comment ne pas être admiratif? Le tout dans un environnement moderne, mais avec le bois de Boulogne en décor. Une merveille.
Oui. Alessandra Montagne.
Alors, mon coup de cœur du moment, là, le dernier reste que j'ai fait, c'est Cansou, dans le 6e arrondissement.
Dont on a un bonnet.
C'est de l'abbé Grégoire.
C'est incroyable. Ah, Charles César Loro,
Kinsou. Juste en face d'ailleurs de l'école Ferrandi.
D'accord. C'est ça.
Exactement, rue de l'Abbé Grégoire. Une recommandation.
Deux passions, la gastronomie et le théâtre. Nous sommes du côté du Palais des Glaces avec une pièce qui s'appelle Le Dernier Relais.
À Paris.
Benjamin Tranier, qui raconte durant une heure les dernières heures d'un relais routier, juste avant qu'il ne soit vendu pour être remplacé par un Burger King. Oui. C'est assez touchant. Il joue tous les rôles, hein. Du patron, du chef, des clients. Ça raconte ces 30 ans d'un relais routier qui va céder la place à un Burger King. Je vous laisse la fin de la surprise.
Merci Michel Leb d'être venu à table ce dimanche. On vous retrouve dès cet après-midi 15h à la Comédie des Champs-Élysées à Paris, avenue Montaigne, dans Inavouable, qui va partir ensuite en tournée dans nos belles régions. Merci beaucoup,
merci
à Alessandra Montagne, pour merci ce beau déjeuner restaurant Nosso à Paris dans le 13e arrondissement. Merci Alain Baraton.
Merci de m'avoir convié.
Embrassez vos arbres.
Mais dès que je rentre.
Plantes, hein, vos belles j'arrive. Plantes, on peut le dire ça.
On peut le dire.
Hein, c'est dictionnaire amoureux des arbres. On doit rigoler chez Plon. Salut Emmanuel Rubin. À la semaine prochaine. Et merci à toute mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. David Ordonneau à la rédaction en chef, Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction, Marion Sauveur à la rédaction, Loïc Vimard à la réalisation et Olivier Duval à la technique. Voilà, vous connaissez tout le monde. Bon week-end sur Europe 1. Dans un instant, c'est Europe Midi Week-end avec Thierry Dagiral. Faites la cuisine, le marché et puis le reste aussi.
Oui, le reste surtout.
Et pas la guerre.
Ah, et ça a tombé, toi, et tu fais...
Qu'est-ce que c'est bon, ça ?
Chocolat et poudre de gratte-cul, alors. Hein.
Oui,
c'est un bon chocolat.
Il y a un problème de gorge. On prend un petit coup de blanc.
Ah oui, il faut prendre un petit coup de blanc. Ah, il est bien, hein, ce blanc. Hein. Ouais. Moi, je vais vous couvrir ça.